Et nous poursuivons aujourd'hui notre découverte de l'héritage laissé par le célèbre philosophe du XVIIe siècle, Blaise Pascal. Alors, comment évoquer Pascal sans faire référence à son célèbre pari, qui encourage les athées et sceptiques à croire en Dieu, puisque finalement, ils n'auraient rien à perdre, mais tout à gagner. Ainsi, on est sûr d'aller au paradis, que Dieu existe ou qu'il n'existe pas. Mais au fond, qu'est-ce que Pascal cherche à nous dire en proposant ce pari? Eh bien, on en parle tout de suite dans cette émission.
Espi, Sophie Lecomte, avec le père Jean-François Noël.
Bonjour père Jean-François.
Bonjour Sophie.
Alors je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse d'Aix et Arles et également psychanalyste. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et nous revenons sur le célèbre pari de Pascal. Alors qu'a-t-il voulu nous dire avec ce pari? Que finalement Dieu c'était un pari à 10 contre 1?
10 contre 1.
Ou plus peut-être, je ne sais pas.
Oui, non, c'est entre le fini et l'infini. Donc là, vous n'êtes même pas à 10 contre 1. C'est même pas multimillionnaire. C'est l'infini et l'un. Bon. Alors, il faut bien comprendre que...
Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est un peu mystérieux quand même. Ce pari dit qu'il vaut mieux. Si, bon, je résume de manière très très simple. Il dit qu'il vaut mieux croire en Dieu finalement que ne pas croire en Dieu. Qu'on a tout à gagner à croire en Dieu.
Et en fait, s'il n'y a pas de Dieu, si Dieu n'existait pas, on n'a rien perdu. Parce que il faut bien comprendre que la pensée de Pascal, elle est sur une ligne de crête. Entre la conscience aiguë d'une misère dans laquelle l'homme est tombé, alors lui, il le place à cause du péché originel, mais ça, on peut y revenir ou en discuter, son désir, son désir de vie insatiable, d'être en Dieu et d'être pour Dieu. Voilà. Donc l'homme est tendu, c'est très fatigant comme posture, entre la tension qui le mène et qui le mène vers le bien et le vrai qui est Dieu, et son incapacité de le faire, de pouvoir l'atteindre. Et donc il est dans une position toujours tendue. Voilà. Donc, c'est ça qui me faisait parler d'inquiétude. Voilà. Et je ne sais pas si vous savez, mais comment on
je
appelle
vous écoute.
Je connais une maman qui... Vous savez, la cerne du lion, vous connaissez ça?
Oui, moi je l'ai, mais...
Oui, vous
la
l'avez,
ride
oui.
Du lion.
Mais moi aussi. Non, mais je connais une maman. Mais dire, il y avait un très bon livre de l'intranquillité de Marion, je ne sais plus comment, et qui racontait qu'elle avait vu sur le visage de son fils la ride du lion et qu'elle tentait tous les matins de masser la ride du lion pour l'effacer. Mais en fait, il y a des enfants qui sont... existentiellement inquiet, voilà. Et que d'autres qui le sont un peu indifférents.
Parce que quand on a la ride du lion, c'est qu'on est inquiet.
Ah, il ne faut pas systématiser. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, ils se posent des questions.
Pour toutes les mamans qui nous écoutent, c'est bon, vous avez entendu.
Non, mais c'est vrai que moi, il me semble que ma mère me racontait que je posais beaucoup de questions et qu'il y a des enfants qui posent beaucoup de questions, voilà. Et qu'il y a des enfants qui n'en posent pas, voilà. C'est ce qu'on appelle le grand passage métaphysique de l'enfance, que je résume toujours par cette phrase incroyable d'un enfant qui me disait « Mais pourquoi toi c'est toi et moi c'est moi ?» qui est quand même l'essence même de la métaphysique. Bon, mais il avait 5 ans. Alors, Pascal se situe exactement à ce niveau-là. Et qu'il n'y a pas, que l'homme n'aura pas de repos, n'aura pas de place tant qu'il ne repose pas. Qui ne reposera pas en Dieu. D'ailleurs, c'est une phrase d'Augustin, en fait, ce que je viens de dire. Et c'est là que Pascal est vraiment l'héritier d'Augustin. Augustin découvre cette même appel souverain de Dieu et découvre son incapacité à y aller par ses propres forces.
Mais je me mets à la place d'un athée.
Alors, revenons au pari.
Voilà, revenons au pari, justement. Je me mets à la place d'un athée. Bon, le pari, on nous parle de Dieu, on n'arrive pas à prouver son existence scientifiquement.
Les gens
le dieu du christianisme aussi un dieu caché, non, quand même,
bah
on
oui.
peut dire.
Bah oui.
Comment on arrive à convaincre un athée de parier sur l'existence de Dieu?
Je ne pense pas qu'on puisse le convaincre. D'ailleurs, c'est intéressant, le point d'interrogation de Pascal n'est pas de prouver l'existence de Dieu. D'ailleurs c'est un biais, comment dire... Et puis, enfin, je veux dire un mot savant, épistémologique. C'est un biais moderne qui fait croire que quand on est croyant, ça prouve l'existence de Dieu. Moi, je sais pas. En fait, c'est pas mon problème. Je veux dire, si j'étais amoureux d'une femme, le problème c'est pas qu'elle existe, c'est que je sois amoureux. Donc, les gens croient que parce qu'on est croyant, Ça prouve que nous, on prouve. Ben non, je suis. C'est pas ma question. Ma question, c'est que j'ai. Il y a une relation avec un inconnu, une à la fois attirant, inquiétant, lointain, caché, inaccessible, mais désirable, que j'appelle Dieu.
La foi, c'est une grâce. Ça nous est donné comme ça. Quand je.
Alors attendez. Là, on change de registre. Pourquoi vous posez la question de la foi
à la fois ? Parce que vous me dites, quand on aime quelqu'un, c'est donné comme ça, un croyant, on a l'impression que la foi,
finalement...
Oui, alors,
reprenons l'étymologie de la foi, qui est d'être...
C'est...
Non, reprenons l'étymologie de la foi.
D'accord.
Vous me posez la question de la foi. Donc, la foi, là aussi, c'est pas une preuve de l'existence, c'est pas une manière de prouver l'existence de Dieu. Parce que le problème n'est pas quand deux êtres s'aiment, se fient l'un à l'autre... Ils n'ont pas envie de prouver l'existence de Marlène à ses parents ou l'existence de Christian à pour la fiancée. La question ne se pose pas. La question, c'est la relation. Et le vrai mot qui fonde le mot de la foi, c'est la fiancée. Ce n'est pas croyance. C'est se fier à. C'est ça, la foi. Alors après, le pari repose sur une manière de se fier à... sans poser la question de l'existence de Dieu. C'est ça que Pascal va dire, c'est que c'est pas une question de raison, c'est une question de cœur. C'est pas, sinon on va retomber dans les grandes démonstrations philosophiques de Saint Anselme ou de Descartes ou de Saint Augustin qui veulent prouver l'existence de Dieu. En fait, où il y a une relation et la tension que l'homme éprouve dans son cœur à l'égard de cet infini lui donne envie d'avoir une relation avec cet infini, cet absolu, mais il ne se pose pas la question de son existence ou pas. C'est qu'il découvre en lui une capacité qui le dépasse infiniment et sans laquelle il s'ennuie, ou il meurt, ou il se divertit. C'est ça, Pascal. C'est qu'il découvre... La question, c'est intéressant, c'est pour ça qu'il est très moderne. Il ne se pose pas la question de la preuve de l'existence de Dieu, petit a, mais si Dieu, voilà, les sauterelles, le monde, la galaxie prouvent que... Ça, c'est autre chose. Pascal découvre que dans l'homme, il y a une question lancinante et inquiétante, qu'il n'est pas fait uniquement pour cette succession de jours et de nuits que sont sa vie, mais qu'il est fait pour... un saut plus grand vers l'infini. Peut-être c'est ça la nuit mystique dont il parlera un jour. C'est qu'il a de fait un moment comme Saint Paul. Saint Paul, que j'ai déjà cité ici plusieurs fois, lorsqu'il, avant de parler qu'il avait une blessure, une écharpe dans sa chair, qu'est-ce qu'il raconte avant ? D'ailleurs, on a très très peu de confidences de Paul, donc quand on en a une, il faut s'en saisir, qu'il a été ravi au ciel, de 1 Corinthiens 12, et que est-ce dans mon corps, est-ce en mon corps, je ne sais pas, et qu'il a entendu des paroles ineffables, est-ce dans mon corps, est-ce hors de mon corps, je ne sais pas, qu'il n'est pas autorisé à répéter. Et après, il raconte que c'est pour ça que Pascal est très héritier de Saint Paul, il raconte qu'il a découvert qu'il avait une écharpe dans la chair, et qu'il a demandé 1000 fois à Dieu de lui enlever cette écharpe, et que Dieu lui a répondu « Ma grâce te suffit ». Donc en fait, lui aussi, il a vécu une nuit de rencontre.
La grâce de Dieu, donc, s'insère dans les aspérités.
Oui, il faut que... Alors, chez Pascal, c'est la reconnaissance du péché, l'aveu intime du péché.
Que l'homme se reconnaisse pécheur.
Ça, c'est la condition... sine qua non de l'accueil de la grâce.
Pour quitter un orgueil trop fort.
Une suffisance, voilà. Orgueil ou suffisance. Une vanité, comme dirait la Bible. En fait, il faut qu'il y ait une brèche, quoi. Et s'il y a une brèche, la grâce peut venir. Mais on ne sait pas ni comment, ni quoi, ni sous quelle forme. Ça, c'est... L'homme ne peut pas... c'est ça la guerre qu'il y aura entre le courant, maintenant on en reparlera, le courant des jansénistes et puis l'Église, c'est que certains vont dire, ben non, la grâce, il faut se laisser faire, voilà, etc. C'est comme la pluie qui tombe. Ben non, il faut s'y exposer, il faut s'y risquer, voilà. Et le pari, chez Pascal, c'est de s'exposer à cette grâce. Si elle ne vient pas, tant pis, on n'a rien à perdre. De toute façon, il n'y a rien de plus ni rien de moins en ce bas monde, comme dirait l'Ecclésiaste. Par contre, s'il y est, alors là, c'est la rencontre.
Donc là, c'est le cœur du pari,
ouais.
Ce que vous venez de nous dire.
Ouais.
Et il a expérimenté tout au long de sa vie une connaissance personnelle de Dieu. C'était vraiment en quête de Dieu. Et on s'est rendu compte que cette quête de Dieu, elle n'a jamais été séparée de son aventure intellectuelle.
Non. Alors, chez Pascal, c'est pas un pur intellectuel, même si effectivement les pensées, les fameuses pensées, qui d'ailleurs sont forcément, c'est ce que disent les les commentateurs autorisés, c'est que c'est le titre qu'on a donné ensuite, mais c'était des petits bouts de papier qu'il avait partout, dans, qui cousait même en secret dans son manteau.
Dans son manteau, oui,
c'est fou,
ça,
hein.
En préparant l'émission.
Ah oui, oui,
il y en a beaucoup, beaucoup de commentateurs l'ont traité d'ailleurs de paranoïaque à cause de ça, parce qu'il planquait ses pensées.
Ben parce qu'il sentait la force un peu révolutionnaire de cette pensée et qu'il n'était pas... d'ailleurs, il était... Enfin, il était... Il publiait davantage sur le plan scientifique, les fameux, je ne sais plus maintenant, les probabilités. Ouais, ça, je cherchais.
Il disait que c'était lui qui avait inventé les premiers transports en commun, la calculatrice.
Oui, c'est un... Et alors, comme il avait des pensées... alors, il y a une nuit mystique, la fameuse...
Nuit de feu.
Alors, je ne sais pas si on fait référence à la même anecdote.
23 c'est novembre ça... 1654.
Ah, écoutez, je ne sais pas. Vous êtes très...
J'ai vu une nuit de feu.
C'est quand sa sœur a été guérie, non?
Je voudrais pas vous dire de bêtises.
D'une fistule lacrymale.
Je sais qu'il a connu en tout cas.
Une fistule lacrymale et que c'est ça et qu'il a été bouleversé par ce miracle dont sa sœur a été la bénéficiaire. Voilà, je crois que c'est la référence.
C'était un mystique, Blaise Pascal?
Ah bah oui. Bah quand vous dites ça, vous avez l'air un peu dépité.
Non, je sais pas. Je trouve qu'il a tellement parlé de foi, de raison que.
Mais pourquoi les mystiques qui sont pas en train de planer? Au-dessus du monde, il
mais
était
ils vivent
tellement
des choses, ils vivent des choses que ne vivent
non,
pas
ils vivent l'intensité.
Le commun des mortels,
ils vivent
non
l'ardeur, ils vivent... C'est ça, un mystique, c'est... Sinon, c'est une autre religion, c'est le détachement, c'est... Je sais pas quoi, les mystiques chrétiens, Sainte Thérèse d'Avila, quand elle commençait à léviter dans la cuisine, demandait à Dieu de le descendre. C'est-à-dire, elle avait des moments mystiques qui l'embêtaient plus qu'autre chose. Bon... Oui. Même Saint François, il se cachait ses moments mystiques, douloureux d'ailleurs, puisqu'il partageait la souffrance du Christ. Donc les mystiques, ils s'absentent pas du réel, ils sont en cœur du réel.
Et sur la foi, justement, Blaise Pascal a donné l'impression de dire que ça contredisait pas la raison, mais
non.
Que ça l'éclairait, justement.
Oui, vous avez répondu à la question. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas... Comme le vont dire certaines écoles, opposition entre la raison et la foi, comme vont dire certains philosophes, comme vont essayer de le montrer les philosophes plutôt, alors contemporains qui veulent prouver que la raison suffit, il y a une articulation entre la raison et la foi. Seulement la raison, si elle est laissée elle-même, elle ne prend conscience que de la misère de l'homme et elle ne sait pas quoi faire. Elle sait pas quoi en faire.
La foi apporte un petit supplément d'âme.
Non, elle ouvre la raison à une autre dimension. Qu'il appelle le cœur, qui se rapproche plus du cœur biblique. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Ça, tout le monde connaît cette phrase-là. Parce que le cœur est le lieu plus intime, moins intellectuel, du véritable désir de l'homme vers Dieu.
L'expérience de la charité.
Ah oui, alors, les trois degrés, dont l'ultime degré, donc il y a le cœur, la chair, le cœur et la charité.
Merci beaucoup, Père Jean-François Noël. C'est terminé pour aujourd'hui, en tout cas. Je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse d'Aix et Arles, et également psychanalyste. Et vous pouvez retrouver toutes ces émissions en réécoute sur rcf.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Blaise Pascal a beaucoup parlé d'intériorité. Était-il pour autant un adepte du confinement? C'est la question que nous nous poserons pour la troisième émission consacrée au célèbre philosophe du XVIIe. Belle semaine à tous sur RCF.
Psy Espy. Sophie Lecomte, avec le Père Jean-François Noël.